marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radio était là.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et une émission sur les micros de l'histoire.
Il est 15h, en ce 6 septembre 1999, vous entrez avec nous dans la fabrique de l'histoire.
Emmanuel Laurentin, nouveau rendez-vous chaque lundi, qui va s'attacher au fil des semaines à tisser les fils noueux entre mémoire et histoire.
C'est exactement ça, Christine. Oui, nous allons essayer, dans cette fabrique de l'histoire, d'essayer de comprendre les rapports complexes qu'établit la mémoire, notre mémoire à tous, et l'histoire. Dans la fabrique, nous parlerons archéologie, actualité, mémoire, et nous chercherons à relier cette mémoire fidèle au passé de nos familles, de nos nations, de nos classes sociales, avec une histoire qui vient constamment la bousculer par son ambition scientifique et par la rigueur de ses analyses.
20 ans, c'est un âge décisif pour les émissions d'histoire. Bah oui, parce que moi, si j'additionne les années de Patrice Gélinet et les miennes, ça fait plus de 20 ans. Et vous, Emmanuel Laurentin, ici présent, venu de France Culture, vous aviez commencé La Fabrique en 99, avant qu'elle ne devienne quotidienne en 2004.
Exactement, et auparavant, j'avais succédé à Patrice Gélinet dans l'émission qui s'appelait L'Histoire en direct en 1996, en quittant l'équipe de quelqu'un qui s'appelait Jean Lebrun à l'époque.
Et... oui, mais pas trop de rétrospectif. Vous avez invité à la dernière ce matin des jeunes de 20 ans. Nous avons invité en face de vous Céline Loriou, que vous avez déjà rencontrée, qui prépare une thèse sur...
sur les émissions d'histoire diffusées à la radio.
Le titre est bien meilleur.
Les micros de l'histoire.
Oui, je vous ai emprunté votre titre avant même que votre thèse ne soit rédigée. Quand vous avez rencontré Emmanuel Laurentin, vous avez cherché à le définir.
Oui, Emmanuel Laurentin a utilisé une formule pour décrire ce métier qu'il a en quelque sorte conçu, qui est la formule de journaliste d'histoire.
Ouais. Journaliste d'histoire.
Vous savez, il faut résoudre ces contradictions, et donc la contradiction, c'est d'un côté le chaud du journalisme, et de l'autre côté le temps patient et lent de l'histoire. Et comment faire pour résoudre ces contradictions? Bien, on met les deux ensemble, et puis ça permet de dormir plus tranquillement, c'est-à-dire dire qu'on est journaliste d'histoire, comme on peut être journaliste économique, journaliste scientifique, journaliste sportif.
Séverine Liattard, pilier de votre émission, dit l'histoire, c'est une construction intellectuelle, un récit en phase de réécriture permanente en fonction des événements d'aujourd'hui. Vous allez redevenir journaliste d'actualité et centrer votre émission de 18h15 tous les soirs sur France Culture, sur l'événement.
Exactement. Qu'est-ce qu'un événement? Comment se construit-il? Et comment les sciences humaines et les sciences sociales peuvent-elles regarder l'actualité?
Alors au départ... on va partir du lendemain de la Deuxième Guerre. Il faudrait, je sais, vous allez le faire dans votre thèse, Céline Loriou, remonter bien plus haut. Il y avait la voie de la conférence. La conférence. Ou du cours, le cours en Sorbonne.
Tout à fait. Dès l'après-guerre, la radiodiffusion française retransmet des conférences et des cours de professeurs. Dès les années 47-48, une station de radio est entièrement dédiée à ça, Radio Sorbonne. Et donc, ça permet aux auditeurs et aux auditrices de France d'écouter les plus grands professeurs de la Sorbonne directement chez eux.
La radio, le plus grand professeur. Souvent, le professeur oublie le micro.
Oui, il peut arriver, alors est-ce que c'est de l'anecdote ou est-ce que c'est réel, il peut arriver que le professeur oublie qu'il est face à un micro et que, emporté par ses paroles, il se retrouve à faire des va-et-vient dans le studio en oubliant qu'il est à la radio, en fait.
Donc on le fixe, le professeur, pour l'heure de culture française, une causerie, c'est pas tout à fait la même chose qu'une conférence, derrière une table et un micro. En 1948, il a 70 ans à peu près, le grand maître de l'école des annales excelle dans ce genre, c'est Lucien Febvre.
Eh bien, voulez-vous que nous ouvrions ensemble, à n'importe quelle page, le gros livre où des savants patients ont reconstitué jour par jour pour les 30 ans du règne de François Ier l'itinéraire du souverain. La cour, mot prestigieux, Il évoque des visions magnifiques, de grandes salles dorées, toutes illuminées, de seigneurs et de dames, superbement vêtus, siégeant à demeure dans de brillants palais, et menant une vie de grand luxe et de représentation, vie d'oisif, sans doute, mais qui ne manque d'ailleurs ni d'élégance, ni d'une certaine activité spirituelle, de conversation et de malins propos. Eh bien, la cour, elle suit. Elle est sur les grandes routes, dans les bois, à travers les labourés. C'est pas une cour, c'est une caravane. Plus justement, c'est une troupe qui fait étape. Rappelons-nous nos souvenirs militaires. Voilà le campement qui part d'avance pour être installé et paré quand le maître arrivera au gîte. Les fourriers du roi, les maréchaux des logis qui marquent les logements à la craie. Le peuple des cuisiniers, des sauciers, rôtisseurs, pâtissiers, tout ce monde-là à cheval se hâte vers le gîte d'étape. Qu'on monte n'importe où dans une clairière en pleine campagne sur un caprice du maître.
Lucien Febvre, Emmanuel Laurentin, ça a de la gueule, c'est une médiation directe. Antoine Oberdorf, qui a préparé cette émission, qui a à peu près le même âge que Céline, dit « Ah tiens, ça me fait penser à Henri Guillemin, parce que ce genre n'est pas mort ».
Non, ce genre n'est pas mort, et par exemple, j'ai moi-même tenté de suivre avec une historienne dans un documentaire il y a très peu de temps, Fanny Madeline, spécialiste des Plantagenets, de suivre la cour d'Henri II, justement arrivant à Barfleur et descendant la côte du Cotentin en plein Moyen-Âge, parce que c'est une façon formidable que de raconter justement ce qu'est une cour itinérante. Et ces cours itinérantes, on les redécouvre, il y a des séminaires de recherche ces temps-ci autour des cours itinérantes. C'est passionnant de se dire que le pouvoir n'est pas à un seul endroit, mais qu'il doit être partout pour pouvoir... conquérir les cœurs et les esprits.
Mais le pouvoir de la parole aussi, c'est pour ça que je citais le nom de Guillemin, dont les causeries d'autrefois, la télévision suisse romande, il était en costume trois pièces, très sérieux.
Un énorme succès.
Beaucoup de succès chez les jeunes. Sans doute plus que n'en aurait aujourd'hui le trio qui va faire la tribune de l'histoire. Alors, le Poste National, en 1951, le jour des enfants, le jeudi, entre deux émissions destinées aux têtes blondes, comme on disait.
André Castelot présente La Tribune de l'Histoire, une émission d'Alain Decaux.
Avec aujourd'hui la participation de Monsieur le Général Végan de l'Académie française, le prince Rogatien de Faucigny-Lucinge, Monsieur Charles Bréban, directeur des Archives nationales, interviewé par Jean Rabault. Mademoiselle Régine Pirnoux.
Speaker Charles Bassompierre.
Speakerine Claude Herval.
Rédacteur en chef de l'émission, Colin Simard.
Il y aura demain 100 ans, mourait Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. L'échafaud avait fauché son père, sa mère, sa tante, ses amis, ses serviteurs. La Révolution avait fait disparaître son frère, Louis XVII. Elle avait elle-même gardé 3 ans et demi en prison. La plus malheureuse princesse du monde.
Je me trouve en ce moment dans la chambre du prince Rogatien de Faucigny-Lucinge, qui par sa grand-mère, la comtesse d'Issoudun, fille du duc de Berry, est l'arrière-petit-neveu de Madame Royale. Autour de moi se trouvent des dessins exécutés par le duc de Berry ou par le comte de Chambord, des portraits aussi de tous les membres de la famille royale de France. Et voici un portrait de Madame Royale, n'est-ce pas ?
Oui, à la fin de sa vie.
Louis XVIII ne disait-il pas de sa nièce qu'elle avait une amabilité de sang de clou ?
Oui, elle n'était guère souriante. Mais mon père, dans ses mémoires, nous donne un peu le secret de cette attitude de souverain mécontentement. Tous, en s'approchant de ce spectre des guillotinés, se croyaient obligés de prendre un air lugubre. Aussi, pour ne pas éclater en sanglots devant ses visiteurs, elle se raidissait de tout son être et lançait ses fameuses phrases à l'emporte-pièce.
Je ne veux pas dire, mais enfin, il y a une certaine tonalité politique, Emmanuel Laurentin, parce qu'Alain Decaux n'a pas encore la tonalité centre-gauche, humaniste, qui lui permettra d'entrer dans un gouvernement de François Mitterrand. André Castelot est un rescapé de la presse collaborationniste, fils d'une militante nazie. Et puis alors pour... permettre une meilleure répartition des opinions politiques. Le duo va s'adjoindre en 1963, Jean-François Quiap, royaliste et dont le père, préfet collaborationniste, a été fusillé devant les arènes de Nîmes en 1945. Comment la République a-t-elle composé ce trio?
Mais je ne sais pas. En tout cas, il a évolué ce trio parce que vous savez qu'à la télévision, ils vont donc faire une série d'émissions ensemble. En même temps qu'à la radio, ils feront la tribune de l'histoire. Et à la fin, ce trio va être sanctionné à la télévision parce que le général de Gaulle n'a pas beaucoup aimé la série sur les Qatars qu'ils avaient composée en plein cœur des années 60. Donc c'est assez étonnant parce qu'effectivement, l'évolution de Alain Decaux, on la connaît. En revanche, on peut penser que ni André Castelot ni Jean-François Capte n'ont beaucoup évolué sur leurs opinions politiques du début.
Grande nouvelle de la petite histoire. La petite histoire, Céline Loriot.
Eh bien, André Castelot et Alain Decaux se revendiquent le nôtre, qui est le pape de la petite histoire, et donc qui essaye de mettre sur le devant de la scène une histoire plus anecdotique. Et cette histoire, on la retrouve dans l'émission La Tribune de l'Histoire.
Enfin, pourvu que les anecdotes soient vraies. Peu à peu, La Tribune de l'Histoire va faire de plus en plus de place aux dramatiques très très bien mises en scène.
André Castelot, Alain Decaux, Jean-François Kiap. Une émission réalisée par Alain Barou.
Et oui, pour l'anniversaire du mois, je proposerai Fouquier-Tinville, qui est un sujet passionnant, c'est un personnage, on l'a dit, pique-pente de Fouquier-Tinville. Je crois que nous pourrions peut-être nous pencher sur son cœur, sur son âme, et de voir exactement s'il était un monstre comme certains l'ont montré, ou si au contraire, derrière cette carapace monstrueuse, il y avait un cœur qui pouvait battre. Mais alors, qui voyons-nous pour Fouquier-Tinville? Je crois que c'est capital. Quel est le comédien Alain Barou qui pourrait interpréter Fouquier-Tinville?
Il y a toujours quelques noms là que je notais dès que vous avez dit ça. J'ai noté Bouquet, Negroni, Topard, Vanek. Enfin, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Moi, je crois que...
Negroni.
Fouquier, toi qui fus un homme de loi, peux-tu concevoir qu'on juge 100 personnes par jour?
Il n'est pas tombé sur l'échafaud une seule tête sans que j'en ai reçu un ordre écrit.
Voyez-vous, je ne suis qu'une hache. Et que peut-on reprocher à une hache?
Peut-être d'être ébréché.
Le glaive du peuple est trempé dans un acier qui ne s'ébrèche pas.
Je demande que Fouquier-Tinville aille cuver dans les enfers le sang qu'il a versé. Hey! Je demande contre lui le décret d'accusation.
Formidable réalisation de Barreau, mais il ne faut pas que l'historien se transforme en juge.
Normalement, non, ce n'est pas son rôle. Effectivement, il faut qu'il présente les pièces du dossier, mais il faut aussi qu'il explique le contexte dans lequel on se retrouve dans une situation comme celle-ci, par exemple. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué sur cette question de la Révolution française depuis cette époque-là. Moi, je note autre chose. Je note le son des grands studios de Radio France qui sont en bas d'ici et avec ce peuple qui est peut-être réduit à la portion congrue, qui applaudit donc à la condamnation de Fouquier-Tinville.
Parce que vous écoutez au casque, aux archives de l'INA, à l'INATEC, à la BNF, et vous entendez même les pas des gens qui passent.
Tout à fait. Lorsqu'on écoute au casque, on a une écoute qui est beaucoup plus riche. Donc on entend, lors des causeries de professeurs, le bruissement du papier, les professeurs qui martèlent leurs propos en tapant sur la table du studio.
Et de même, pendant les dramatiques qui pouvaient avoir lieu en direct, le plancher qui craque sous le poids des protagonistes. Vous avez essayé le genre témoin. Alors, on va voir combien c'est important dans la répartition des émissions d'histoire. Voici le générique d'une émission qu'on aime beaucoup, nous, ici.
Soyez témoin. Une émission d'André Gillois.
Au Cap Martin, Mademoiselle de Bassano se souvient de l'impératrice à travers une vision de fleurs. Mais voyez comme l'histoire est difficile à écrire. C'est un souvenir tout différent que conserve Jean Cocteau.
Je l'ai connue au Cap Martin. Elle avait une villa au Cap Martin. Elle avait l'air d'un vieux prêtre espagnol. Et elle avait encore les yeux très maquillés, comme les femmes des courses de taureaux. Elle avait d'ailleurs le rire des femmes aux courses de taureaux, un grand rire très rauque. Elle détestait les fleurs. Elle avait dans ce jardin seulement des cactus, des rochers et une canne sur laquelle elle s'appuyait. Et avec cette canne, si elle voyait une fleur, elle la fauchait. Et j'étais très très jeune, un jeune poète, et l'impératrice a cueilli une fleur. J'ai cru qu'elle allait la piétiner, et c'était une fleur de Daphné. Et elle me l'a mis à boutonnière en me disant, je n'ai plus le pouvoir de décorer personne, mais je vous décore avec cette fleur. Et ensuite, j'ai cru que j'allais me retirer, mais pas du tout, elle était plus forte que nous tous. Elle m'a raccompagné à l'hôtel avec sa suite. Je suis revenu la réaccompagner jusqu'à la villa de Chirnos, et elle a voulu encore me réaccompagner à l'hôtel. Elle était infatigable. Elle avait l'air, dans son jardin qui est à pic, au bord de la mer, elle avait l'air d'une chèvre, une chèvre des montagnes.
Et dans le jardin des Tuileries, parce qu'elle venait à l'hôtel Meurice à Paris, elle se promenait. Des destins tragiques de Madame Royale tout à l'heure, et maintenant destin mélancolique. 50 ans d'exil d'Eugénie. Je peux raconter une anecdote,
Emmanuel
Laurentin ? Je ne sais pas si elle est tout à fait exacte. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du traité de Versailles.
Absolument.
Elle est encore vivante le 28 juin 1919. Elle a 93 ans. Elle est clouée dans son manoir anglais. Dans la crypte est enterré Napoléon III. Elle se fait porter à bout de bras par ses domestiques dans la crypte et elle lit le traité de Versailles à l'empereur défunt. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais Gillois, dans Soyez témoin, disait « Si les conditions sont réunies d'un événement, il n'y a pas besoin qu'il se réalise. »
Oui, puis il y a aussi quelque chose que nous apprennent ces témoins quand on va les interroger, c'est que nos périodes historiques classiques qui se ferment, par exemple la fin du Second Empire à un moment donné, eh bien elles continuent pour beaucoup des participants. J'ai adoré par exemple ce qu'écrivait Sudhir Azari Singh sur les derniers grognards de la garde impériale qui étaient fêtés dans les années 1880. Dans le Var, dans le sud-est de la France, alors qu'évidemment, pour nous, la mort de Napoléon, c'est la fin d'une période. Eh bien non, pour plein de personnes qui ont vécu une époque, eh bien, ils racontent cette histoire encore beaucoup plus loin. Et donc, savoir que Eugénie était encore vivante en 1919 et qu'elle allait peut-être lire le traité de Versailles à son défunt mari, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on ne l'imagine pas.
Vous aviez imaginé, vous, une manière de faire témoigner plusieurs générations les unes après les autres?
Les cascades de mémoire. L'idée, c'était de travailler sur les mémoires familiales qui, justement, cheminent en parallèle avec l'histoire officielle, d'une certaine façon, l'histoire qu'on se raconte et qu'on lit dans les manuels. C'est-à-dire comment eh bien, on peut remonter assez haut en demandant à des grands-parents qui ont 90 ans aujourd'hui, on peut remonter à la mémoire de ce qu'ils ont entendu de la part de leurs propres grands-parents. Et donc, il y a ces cascades qui cheminaient dans les documentaires de la Fabrique de l'Histoire, au tout début de la Fabrique de l'Histoire.
Oui, mais l'histoire, elle est tissée de l'étoffe de nos rêves. Si c'est pas vrai,
c'est pas grave. Ça dit quelque chose.
C'est pas grave.
C'est pas grave, ça dit quelque chose. En tout cas, ça dit quelque chose de la mémoire. Par exemple, prenez l'exemple d'une cascade de mémoire. Eh bien, ils avaient retrouvé dans une famille d'Amiens, ils avaient retrouvé une petite liasse de lettres qui avait été envoyée par un de leurs ancêtres qui n'avait pas eu d'enfant de la Nouvelle-Calédonie. Et chacun des membres de la famille s'emparait de ce personnage, les uns l'imaginant comme un aventurier, créateur d'empire, parti au loin, les autres considérant que c'était quelqu'un qui avait été perdu par sa famille. C'est très intéressant que de savoir ça, que dans une même famille, eh bien, on a des rêves différents d'histoire à propos d'un ancêtre commun.
Je vous apporte cette maxime d'Alphonse Dupron en prologue de votre future émission sur l'événement. Il y a des événements qui ne se sont jamais réalisés, par exemple la croisade, et eh ben cependant, ils existent. Alors, le style France Culture, maintenant. France Culture, c'est difficile de dater sa naissance. 1963, transformation du programme national. France Inter, vaisseau amiral, Emmanuel Laurentin. Et puis alors, quelques vestiges de la flotte. Ils n'ont pas de destination. On fabrique, je ne dis pas un radeau, mais une embarcation qui va connaître une belle fortune. C'est France Culture. Où naissent en 1966, vous avez quel âge ?
J'ai 6 ans de plus.
Ouais. C'est le lundi, le jour un peu dévolu à l'histoire. Les lundis de l'histoire reçoivent un peu plus tard, en 1986, un prix, le prix Diderot. Et Jean-Noël Jeannet, producteur aujourd'hui de Concordance des temps, est alors président de Radio France.
Je crois que dans le grand chambardement, le grand tohu-bohu des ondes de la modulation de fréquence, il est bon, il est sain, que perdure une chaîne comme la nôtre, qui a ceci de tout à fait particulier, je crois, d'être libre de l'immédiateté, d'être libre de la tyrannie de l'instant. Nous travaillons pour l'avenir, car nous savons aider à se constituer dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'histoire, un vivier de jeunes talents qui trouvent ici, chez nous, une occasion de s'exprimer, longuement, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Nous travaillons à être des historiens.
Alors, si vous avez 6 ans à la naissance, 16... Non, 20 26, au moment où 26, parle Jeannet, 26, là, vous avez 26, alors là, vous êtes un auditeur.
Et j'entre à Radio France.
Oui, mais vous avez été un auditeur dès lundi.
Évidemment, et c'est la particularité de cette émission des lundis de l'histoire, qui a duré plus de 45 ans, c'est de mettre des historiens face à d'autres historiens. Et donc, de se passer de médiateurs, et je pense que Céline Lanhue a peut-être des choses à dire là-dessus, c'est-à-dire, qui sont les médiateurs de l'histoire à la radio? Eh bien, parfois, ce sont les historiens eux-mêmes.
Oui, les lundis de l'histoire, à partir de 68, sont animés par Jacques Le Goff, qui est rejoint rapidement par Denis Richet. Suivront Roger Chartier, Michel Perrault, Philippe Le Villain, Arlette Farge. Et donc, c'est l'une des premières émissions, ou la première émission d'histoire, où les historiens ne sont pas juste invités à l'émission. Ce sont les producteurs de l'émission, c'est eux qui la conçoivent et qui l'animent.
Alors, c'est les historiens qui parlent aux historiens, et puis aussi aux étudiants. Mais enfin, Jacques Le Goff a... une autre préoccupation, il appelle ça la responsabilité de l'historien. Le voici dialoguant avec le directeur d'Historia.
Jacques Le Goff, président de la 6e section des sciences économiques et sociales de l'École pratique des hautes études, avec Christian Melchior Bonnet, directeur du Journal de la France et de la revue Historia. Peut-être faut-il, avant de commencer ce dialogue, demander à Christian Melchior Bonnet pourquoi cette vogue actuelle. Pourquoi cette demande accrue de l'histoire aujourd'hui?
Nous voyons qu'il y a une véritable boulimie. Il y a un souci d'expliquer le temps présent, expliquer le présent par le passé. Il y a là une curiosité permanente, et puis alors la référence au passé pour essayer de le projeter sur le présent. Il y a d'ailleurs, je crois, une espèce d'histoire immédiate qui se fait, qui doit vous poser à vous d'ailleurs bien des problèmes.
Oui, Jacques, vous avez tout à fait raison. Nous nous trouvons, je peux dire en gros historien universitaire, dans une situation assez curieuse, c'est que la vogue actuelle pour l'histoire, s'enracinant essentiellement, comme vous venez de le dire, dans l'intérêt pour l'histoire contemporaine, c'est probablement la partie de l'histoire que nous autres historiens scientifiques, nous savons le moins bien faire. Alors ce qui me paraît justement très intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, de cette participation à l'histoire contemporaine, il souhaite une certaine participation par l'intermédiaire d'autres intercesseurs que les journalistes, journalistes de la presse, journalistes de la télévision, au passé, et par conséquent... il y a là une nouvelle responsabilité, un nouveau rôle des historiens, et par conséquent, l'incitation à une certaine vulgarisation.
Administration de l'histoire en mission dans ces années 70-80.
Oui, Jacques Le Goff parle de vogue pour l'histoire parce que dans les années 70, les historiens universitaires cherchent à aller à la rencontre du public, que ce soit par la télévision, ils sont très présents sur les plateaux de Bernard Pivot, l'émission Apostrophe. Ils créent un magazine de vulgarisation qui s'appelle L'Histoire en 1978. Donc on a ce souci de ne pas rester enfermé dans sa chaire, mais d'aller à la rencontre du public.
Mais dites-moi, l'explication du présent par le passé.
Oui,
c'est si ça avait fonctionné, le présent ne serait pas ce qu'il est, non?
Non, mais c'est intéressant que de penser qu'il y a toujours cette vision aujourd'hui de l'explication du présent par le passé, qui fait partie des raisons pour lesquelles certains aiment l'histoire. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'autres moyens d'aborder ce passé, et en particulier ce qu'on appelle, par exemple, l'histoire des possibles qui s'est développée, c'est-à-dire réfléchir à ce qui n'est pas advenu. Alors donc, si ça n'est pas advenu, qu'est-ce qui aurait pu advenir à la place? Donc des jeux intellectuels qui permettent de réfléchir à ce qu'est l'histoire, les causes, les transmissions des événements entre eux. Et ça, c'est
des jeux parce qu'on est un peu désabusé quand on est historien. Je pense au résultat de l'enquête que vous aviez menée, À quoi sert l'histoire, qui a fait l'objet d'un livre chez Bayard.
Oui.
Pascal Horry avait tendance à dire à rien.
Oui, mais il y en avait qui disaient à rien, d'autres disaient à nourrir nos imaginaires, d'autres disaient à faire des fictions, et puis d'autres pensaient effectivement, et ça fait partie évidemment du métier d'historien, qu'il y avait des preuves à apporter, qu'il y avait des méthodes à mettre en œuvre pour pouvoir comprendre le présent, mais aussi comprendre les gens du passé.
Mais enfin, ça apprend déjà à se déprendre de soi-même. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, Il faut quand même qu'on salue la nouveauté qu'étaient les émissions de Patrice Gélinet, auxquelles nous avons succédé, finalement.
Oui, vous, pour ma part,
et moi. Il a fait l'aller-retour entre France Culture et France Inter. Nous sommes ici dans une version France Culture.
Histoire en direct. Le 2 octobre 1961, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et le préfet de police de Paris, Maurice Papon, traquent les responsables de la Fédération de France du FLN, qui ripostent en multipliant les attentats contre les policiers. Le 6 octobre, pour paralyser l'action du FLN, qui agit de nuit, le préfet de police prend une décision maladroite. En décrétant un véritable couvre-feu pour une catégorie de Français que l'on ne peut distinguer que par la couleur de sa peau, Maurice Papon met le feu aux poudres.
Et pour protester contre le couvre-feu, le FLN envoie hommes volontairement désarmés, femmes et enfants dans des défilés nocturnes. La police tire sur les Algériens, les pourchasse, faisant selon Einaudi quelques 200 morts.
Alors Jean-Luc Einaudi, là-dessus, est-ce que selon vous aussi la police était débordée, ce qui expliquerait la violence de la répression ?
Moi, j'affirme que ce qui s'est produit le 17 octobre a été la généralisation de pratiques qui avaient cours depuis déjà longtemps et que Maurice Papon a couvertes, voire encouragées.
Oui, mais quand un préfet de police couvre, ça ne veut pas dire forcément, ça peut aussi vouloir dire qu'il est débordé par sa propre police.
Mais, écoutez,
très souvent, on raconte, là je disais dans un numéro spécial des Libérations, justement consacré au 17 octobre, une police qui était tout de même truffée d'éléments plus que douteux, avec une manifestation par exemple du syndicat général de la police quelques années auparavant, en 1958,
en mars 58,
effectivement, de certains policiers défilant devant l'Assemblée nationale en criant mort aux Juifs.
Et c'est ce qui a amené la nomination de Papon, d'ailleurs. C'est cette manifestation qui a amené la nomination de Papon.
Alors Emmanuel Laurentin, vous avez repris l'histoire en direct en 96, avant même de fabriquer la fabrique de l'histoire.
Et j'y ai surtout appris auprès des réalisateurs de Patrice Gélinet, des réalisatrices de Patrice Gélinet, le travail du documentaire d'histoire. Comment confronte-t-on des témoins les uns par rapport aux autres ? Que signifie justement de mettre ensemble quelqu'un qui a été un des leaders du FLN pendant la guerre d'Algérie face au témoignage d'un des membres de l'OAS, par exemple, ce que savait faire très bien et ce qu'avait fait merveilleusement bien Patrice Gélinet, à la fois dans cette histoire de la guerre d'Algérie en 10 volets pour France Culture, mais aussi une histoire de la guerre d'Indochine.
Toutes ces émissions que nous avons évoquées trop brièvement étaient lourdes d'un avenir qu'elles n'imaginaient pas sans doute avec nous.
Oui.
C'est comme la marge de l'histoire. Elle a beau faire beaucoup d'émissions sur l'histoire de l'écologie, à votre exemple, Emmanuel Laurentin, elle n'imaginait pas nécessairement que une émission d'écologie lui succéderait l'année prochaine. Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous allez délivrer des lancements pervers que je faisais et j'attends en retour la revanche.
C'est ça, vous allez subir mes passages d'antenne puisque il faut expliquer aux auditeurs, Jean, qu'on va échanger nos horaires à partir de septembre. Donc la Terre au carré arrive sur France Inter, magazine consacré à la planète et à l'environnement. Et ce sera donc tous les jours de la semaine de 13h30 à 14h30. Donc pour nos amis auditeurs qui aiment la marche de l'histoire, il faudra prendre l'habitude de l'écouter un petit peu plus tard.
Je l'ai dit au début, à l'heure du début de la sieste succède l'heure pour la marche de l'histoire de la fin de la sieste.
Voilà.
C'est encore un lancement pervers.
Mais on les aime, vos lancements, Jean.
Et on est très contents de vous voir à cette juste place.
Merci.
Mathieu Vidard. Donc, la tête au carré, vous faites semblant de finir, là.
C'est pas semblant, parce qu'ils sont tous dans le studio, je peux dire qu'il y a du monde, là.
Ça fait la terre au carré. C'est dit. Antoine Oberdorf a préparé cette émission avec Céline Loriou, Emmanuel Laurentin. Il est 14h sur France Inter.